Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, quand nos aliments font l'histoire. Bonjour Frédéric Gersal.
Bonjour à
tous. Bonjour, bienvenue.
Heureux de vous retrouver, vous êtes journaliste chroniqueur sur France Télévisions, notamment en Télématin. Alors je vais vous avouer quelque chose, c'est en buvant du champagne il y a quelques jours, je me suis demandé qui a inventé cette délicieuse boisson pétillante. Ça tombe bien Frédéric, vous avez les réponses et c'est une histoire de moine qu'on va raconter.
Avec un certain Dom Pérignon.
Alors c'était qui Dom Pérignon?
Alors Pierre Pérignon, c'est son prénom parce qu'on va l'appeler Dom parce qu'il va devenir un peu le patron de son monastère. Il est rentré dans les ordres et puis on l'a envoyé à Saint-Pierre-d'Auvillé, c'est comme ça qu'il faut prononcer, en Champagne. Mmh. Et là, il s'aperçoit qu'il y a un monastère mais qui est complètement délabré. Les bâtiments partent à volo, personne ne s'occupe de rien, tout le monde se tape sur la panse sans s'occuper des revenus de ce monastère. Et lui, il s'aperçoit que la seule richesse qu'il y ait à l'intérieur de ce monastère, ce sont ses terres, ce sont ses vignes. Et alors là, il va commencer à travailler la vigne pour obtenir un vin le plus fin possible, mais on est encore bien loin de ce qu'on va appeler le champagne.
Quel goût avait ce vin de champagne? Dom Pérignon a-t-il eu l'idée? Comment il a eu l'idée d'en faire un vin pétillant? Réponse.
Est-ce que c'est lui?
Pétillante, forcément, dans un court instant sur RTL. Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Quand nos aliments font l'histoire, c'est le thème de notre curiosité sur RTL avec le journaliste Frédéric Gersal. Alors on va parler ensemble de betteraves, de bouillon de légumes, de hachis parmentier, mais donc d'abord avec Jacques Higelin entre autres, on continue notre histoire de champagne. C'est, vous nous le disiez, le moine Dom Pérignon qui crée et qui perfectionne le vin de champagne, mais c'est pas encore un vin pétillant. Il a quel goût? Il est bon ce vin?
J'ai jamais goûté parce que...
Ce qu'on en dit,
absolument. Là, vous avez raison, effectivement, on dit que c'est une douceur incroyable, c'est un vin plutôt gris, plutôt qu'un vin blanc, ou comme on peut imaginer le champagne aujourd'hui. Vous savez, on est coincé un peu entre le Bourgogne qui est rouge ou blanc, et puis la Moselle avec son célèbre vin blanc. Voilà, on a un vignoble là qui est un petit peu coincé en champenois, et du coup il va réaliser ce vin, il va écrire exactement ce qu'il prend comme grain de raisin, ce qu'il prend comme cépage, il va tout noter.
Il laisse une recette en quelque sorte.
Oui, un petit peu. Et figurez-vous que ce parchemin va être offert en cadeau de mariage à une dame qui s'appelle Clicquot. Vous vous souvenez, la veuve? Alors pour son mariage,
avant d'être veuve, oui.
Donc on est à la charnière fin 17e, début 18e siècle. Oui. Est-ce qu'à sa mort en 1715, Dom Pérignon a pu goûter un champagne pétillant tel qu'on le connaît aujourd'hui?
Pas du tout. Jusqu'à son décès en 1715, vous l'avez rappelé, l'année de mort de Louis XIV. C'est amusant parce qu'il a les mêmes dates, 1638-1715.
Ah oui, c'est étonnant.
Et quand on sait combien le vin a besoin, et la vigne a besoin de soleil, on se dit que là, il y a un lien à la fois magique et historique. Et effectivement, quand il disparaît, ce vin est plat. C'est comme ça qu'on peut le nommer, un vin plat, mais il est mis déjà en bouteille, ce qui est déjà une révolution. En bouteille, en verre. Le transport est extrêmement fragile, on fait très attention. On met de la paille dans des caisses, puis on coince les bouteilles les unes dans un sens, les autres dans l'autre. Ouais. Mais voilà, le bouchon n'est pas encore celui que l'on connaît avec la muselière, vous savez, avec cette nécessité de conserver le gaz à l'intérieur. On bouche ça tant bien que mal avec de l'étoupe, avec un morceau de bois. Donc on est encore
bien...
Mais
qui va rajouter du gaz dans le champagne?
Alors, ça va être le hasard des transports. La plupart du temps, ce sont les Anglais qui sont grands amateurs de ce vin, de tous les vins. Alors ça passe par le Bordelais, puis ça navigue jusqu'en Angleterre et on va s'apercevoir qu'on s'est trompé de barrique. On a mis du vin de champagne dans une barrique qui n'était pas destinée à ce vin-là. Et puis, très vite, on va y ajouter du sucre. Et voilà, le fait est, ça va monter en fermentation. On va obtenir du gaz carbonique. Et à partir de ce moment-là, on obtient un vin pétillant avec ces fameuses bulles qui font rêver.
Bon, voilà pour l'histoire de Dom Pérignon. Autre histoire d'aliments qui nous propulse vraiment dans la grande histoire, puisqu'on va parler de Napoléon. Et de la betterave. Frédéric Gersal, qu'est-ce qui se passe en France en 1806?
Alors, en 1806, c'est le blocus. Alors attention, quand on parle de la betterave, parce qu'on parlait de Dom Pérignon qui était déjà un religieux, la betterave, c'est pas la betterave, hein, on est bien d'accord. On est avec...
C'est un légume d'ailleurs.
C'est un légume. Ouais. Et finalement, c'est entre la bête et la rave. C'est pour ça qu'on lui donne ce nom, évidemment. On en mangeait les feuilles à l'origine, donc c'était plutôt une bête. Et puis on va en manger la racine. Donc du coup, ça devient une rave. Mais cette betterave, en fait, elle va sauver la France. Pourquoi ? Parce qu'il y a le blocus. Les Anglais ont décidé de nous étouffer, de nous prendre à la gorge. Donc on ne peut plus importer de sucre de canne qui venait notamment des Caraïbes, notamment des Amériques. Alors il va falloir trouver une idée. C'est ce que demande Napoléon. À chaque fois, il tape un grand coup sur la table. Il dit « Cherchez une idée, trouvez-moi quelque chose pour remplacer ce qu'on ne peut plus avoir. » Et voilà comment un certain Benjamin de Lesserre va imaginer le sucre de betterave. Bon, bien sûr, ça existait déjà un petit peu auparavant, mais il va falloir le rentabiliser et faire en sorte de fabriquer ce sucre, non pas en poudre, mais avant tout en morceaux presque. Donc c'est une vraie révolution parce qu'on va pouvoir fournir son propre sucre sans être obligé de faire appel à l'importation.
Et ces histoires incroyables, vous les racontez dans votre livre, Frédéric Gersal, paru chez Albin Michel, les histoires les plus incroyables de l'histoire de France. Tiens, la curiosité continue sur RTL. On va vous raconter une histoire de diffamation et d'hystérie collective. Tout ça pour un petit cube. Un petit bouillon.
Un petit bouillon de légumes.
RTL.
Bouillon de volaille pour retrouver le secret des bons petits plats mijotés.
La curiosité est un vilain défaut.
Quoi ? Spaghetti.
Cadeau.
Un petit cube, un petit geste. C'est fou ce qu'on y prend goût.
Si Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Et pour donner du goût, Henri, donnez d'abord du goût à l'eau. Pour vos poireaux, pour vos légumes, donnez d'abord du goût à l'eau.
Donnez d'abord du goût à l'eau.
On est bien entre curieux sur RTL.
Un petit bouillon cube qui fait pétiller vos soupes ou vos plats depuis 1975. Emma, même bien avant, vous allez voir, on est avec le journaliste Frédéric Gersal. Vous nous racontez les histoires incroyables de l'histoire de France. Et on a choisi de découvrir comment nos aliments, comme le bouillon cube, ont souvent défrayé la chronique. Alors, on pose le décor, on est en 1914. La guerre vient d'être déclarée. L'ordre de mobilisation générale lancé le 1er août. Et un homme se trouve... une drôle de cible, on va d'abord le présenter. C'est Léon Daudet. Oui. Qui est-il ?
Alors Léon Daudet a 47 ans au moment où la guerre éclate. C'est un écrivain, c'est un journaliste, un homme politique à l'Action française. Donc il est très à droite sur l'échiquier politique. Mmh. Alors le pire, c'est qu'il est anti-Dreyfusard. Vous savez, cette période par rapport à Dreyfus qui a divisé la France en deux. Et il écrit dans l'Action française, le journal qui est lié à ce parti politique. Et là, ce monarchiste, ce nationaliste lance non pas un débat, mais une attaque très ciblée.
Contre qui ?
Bah, sur le bouillon cube, sur Magie, la maison Magie, et le cube, le Magie Cube, c'est comme ça qu'il l'appelle, avec la publicité qui est placée tout le long des voies ferrées. Vous savez que les voies ferrées sont évidemment des lieux de transport de troupes. Alors je sais bien qu'en 14, on part avec la fleur au fusil, on se dit on va vite revenir, on est parti arracher la moustache de l'empereur d'Allemagne et on va revenir avec les poils. Mais bon,
ouais, ça va prendre quelques années.
Oui, avec l'horreur au bout. Ouais. Alors effectivement.
Mais qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre bouillon cube ?
Eh bien, il disait, en tout cas Léon Daudet affirmait que ses affiches, ses publicités étaient placées toujours à des endroits clés. C'est-à-dire que c'était un espion. C'était des espions allemands qui avaient installé ces panneaux pour indiquer les bombardements éventuellement.
Avec des messages codés ?
Mais pratiquement, avec l'aviation qui était encore tout juste à sa naissance, vous savez. Ouais. Donc voilà, c'était des indices pour l'espionnage de l'ennemi, pour les trahisons, pour les agents doubles. Bref, non seulement les panneaux vont être mis à bas, puisqu'ils vont être littéralement cassés,
alors,
détruits.
C'est ça qui est passionnant, Frédéric Gersal. On nage en plein délire. C'est, ouais, avec les mots d'aujourd'hui, on dirait que c'est du fake news. Ouais. En fait, c'est de la propagande, tout simplement. Mais ça a des conséquences. Qu'est-ce qui se passe dès le... Donc là, on est le 1er 2 août. C'est vraiment le début de la guerre. Qu'est-ce qui se passe dès le lendemain, dans les magasins, dans les...
Avant l'hiver de 1914, ouais, déjà, les gens se ruent dans ces magasins qui affichent ce Magie Cube, ouais, en détruisant, en malmenant les commerçants, en les condamnant presque à mort, enfin, en les traitant de tous
les noms. Oui, il y a des scènes de lynchage.
Oui, absolument. Ouais. Alors, on se demande ce que fait la police. Effectivement, la police va intervenir, mais on est en plein début de guerre, c'est très très compliqué. Mmh. Et là, Charles Maurras, qui est le patron du journal où a écrit Léon Daudet, je rappelle que quand même Léon Daudet, c'est le fils d'Alphonse Daudet.
L'écrivain, le Tartarin de Tarascon,
les lettres de Montmoulin. Et ce Charles Maurras va être obligé de prendre la plume, il est le directeur de la rédaction, il prend la plume pour dire attention, arrêtez de hausser le ton et relâcher un peu la pression. C'est la nouvelle qu'a annoncé Léon Daudet est quand même un petit peu forte.
Mais ce qui est dingue, c'est que cette marque Magie, oui, n'est même pas allemande.
Non. Alors c'est ce que dit Léon Daudet, et en fait elle est suisse. Oui. Et alors ils vont porter plainte évidemment, mais la maison Magie porte plainte très rapidement. On est en pleine guerre, c'est très compliqué d'aller en justice, et donc ça va prendre plus de 5-6 ans pour qu'enfin il soit débouté, si je puis dire, qu'on ait prouvé qu'il n'y avait évidemment aucun lien entre cette marque et puis l'ennemi, c'est-à-dire l'allemand. En plus, ils sont suisses.
Elle va mettre du temps à être réhabilitée, cette marque Magie ?
Oui, réhabilitée, et en même temps elle va attaquer évidemment Léon Daudet, qui lui va être condamné pour avoir donné ces mauvaises informations, ces mauvaises nouvelles. Mais c'est quelque chose qui est resté ancré dans l'esprit. Ça ne fait pas partie de la grande histoire, mais c'est justement, ce sont ces petites marches de la petite histoire qui nous font comprendre.
J'ai fait une soupière et là, j'avoue que j'utilise toujours un petit bouillon cube. Je ne regarderai plus de la même manière.
Oui, c'est une autre façon de voir sa cuisine.
Allez, autre histoire, celle d'Antoine Augustin Parmentier. Mais a-t-il vraiment inventé le plat qui porte son nom? Réponse à venir sur RTL et Curieux Gourmands.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel sur RTL.
Là où il y a de la lumière, il y a toujours de l'ombre. Elton John, Gérard Depardieu, les Sœurs de Neuve, mais aussi Amy Winehouse ou La Calas, La Gloire et ses fêlures. Chaque samedi, en toute confidence, je vous raconte ces extraordinaires trajectoires où le succès cache souvent des pièges, des doutes ou des secrets d'enfance, les célébrités et l'envers du décor. C'est ensemble et c'est confidentiel sur RTL.
Confidentiel, présenté par Jean-Alphonse Richard, tous les samedis à 14h sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sur toute la terre, on mange des pommes de terre et vous m'entendez bien, bien, bien. On mange des pommes de terre et vous m'entendez bien.
RTL.
Pom, 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 poire aux pommes de terre. Pom, 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 pommes de terre, poireau.
On mangera toujours des pommes de terre, que l'on soit natif aux fleurs.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Les histoires les plus incroyables de l'histoire de France, c'est le thème de notre curiosité et le titre du livre de notre invité Frédéric Gersal, votre livre qui fourmille d'anecdotes. Et on a donc choisi celle qui concerne la gastronomie, nos aliments. Après le champagne, les betteraves et les bouillons de légumes, on parle patates, tout comme Maurice Chevalier a pu les chanter, les pommes de terre. Et donc, un certain Antoine Augustin Parmentier, oui. Où et quand est-il né?
Alors, il est né à Montdidier, en Picardie, en 1737, dans une famille où tout le monde vit heureux. Seulement, voilà, à 13 ans, il va falloir se mettre à travailler. Et il est placé auprès d'un apothicaire. Alors, c'était pas du tout le métier qu'il envisageait. Il n'envisageait pas grand-chose, d'ailleurs, à 13 ans. Ce qu'il fallait, c'est ramener un petit peu de sous à la maison pour les frères et sœurs. Et il va y prendre goût. Seulement, voilà, devenir apothicaire, à l'époque, au 18e siècle, si vous n'avez pas les diplômes, c'est niette, vous allez rester comme préparateur, vous allez rester comme petite main. Et c'est la guerre qui va lui permettre, curieusement, de lui mettre le pied à l'étrier, parce qu'il va se porter candidat pour être apothicaire dans les armées. On a besoin de volontaires, on a besoin de jeunes. Allez-y, mon vieux, partez au combat.
Alors, et pourquoi il va se passionner? Donc, il est sur le front, oui. Et il observe l'alimentation des soldats.
Alors,
c'est
il prend garde à l'alimentation. Oui, ouais. À l'hygiène, vous avez raison, mais c'est surtout qu'il va être fait prisonnier à plusieurs reprises.
Ah, oui.
Et lorsqu'il est aux mains des ennemis, on va le nourrir dans sa geôle avec un légume qu'il ne connaît pas, c'est la pomme de terre.
Il trouve ça très bon.
Il trouve ça très bon, en tout cas comestible. Ouais. Et il se dit, mais après tout, c'est une idée. Et lorsqu'un jour, à Besançon, on va lancer un concours pour essayer de nourrir la France qui a faim, mais au moins cher possible, eh bien, il va concourir, il va proposer ce légume qu'on ne connaissait pas.
Parce qu'elle n'est pas très populaire, c'est-à-dire qu'on la connaît pas bien, cette pomme de terre, en dehors du front.
On la connaît, elle existe en Europe, elle est arrivée par l'Angleterre, elle est descendue jusqu'en France, mais c'est un aliment pour les animaux, pour les bestiaux.
C'est
on
ça
s'en
qui
sert,
est dingue.
C'est une racine.
Parce qu'on ne sait pas la cuisiner encore,
non,
c'est ça, on
non,
la mange
absolument.
Crue ou enfin quand même.
Mais vous savez déjà
un peu pour les soldats.
À l'époque, tout ce qui était racine, on essayait de pas trop le manger. Il fallait qu'on soit au-dessus du sol, et plus on montait, plus c'était bon pour le corps. C'est incroyable comme histoire.
Ouais, Frédéric Gersal, l'histoire dans l'histoire est aussi étonnante, parce que pour rendre ces patates populaires, Parmentier va avoir une idée de génie et un allié, pas n'importe lequel.
Le roi de France.
Ah oui, quand même.
Sa Majesté Louis XVI, ouais. Qui accepte de l'aider dans sa quête. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui proposer quelques arpents de terre. Une terre bien sablonneuse, c'est au Sablon, à Porte-Maillot. C'est bien simple, je le vois d'ici, là. Si je me lève un petit peu, je vois juste de vos nouveaux studios. Ouais. On est juste à côté.
D'ailleurs, on peut voir la plaine des Sablons.
La station de métro, c'est Sablon, ici.
C'est juste
donc,
là.
Voilà, on est sur cette terre, et là, il va planter des pommes de terre. On va mettre des gardes militaires tout autour. Donc, du coup, ça inquiète tout tout ça.
Ah, c'est du marketing, ça.
Mais exactement. Et puis la nuit, on va enlever les gardes. Alors à partir du moment où les fleurs sont sorties, eh bien qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont venir. Ils se sont dit, mais il doit y avoir un trésor enterré. C'est pas possible pour y mettre des soldats. On va fouiller. On va rapporter chez soi ces pommes de terre et on va commencer à les cuisiner. On va commencer à les manger. Bref, Louis XVI était un vrai fan de patates.
Donc, et on le remercie parce que nous aussi on adore ça.
Mais oui, c'est quand je pense au nombre de patates de toutes ces formes que je peux manger.
Par votre corps.
Heureusement que Louis XVI et Parmentier sont passés par là. On connaît le hachis Parmentier. Oui. Est-ce que c'est lui qui a inventé cette recette?
Non, pas du tout. Non. On l'a associé évidemment et pour cause puisqu'il y a de la pomme de terre dedans, mais absolument pas. Il n'est pas du tout. Et puis il n'était pas là pour cuisiner. Il est resté apothicaire. Il était apothicaire aux Invalides. On peut encore visiter aujourd'hui si vous passez par notre belle capitale. On peut encore visiter son atelier. Enfin, là où il travaillait, en tout cas, au sein des Invalides.
Une dernière petite histoire, tiens, il nous reste une petite minute, ouais. Parce que dans votre livre, il y a un personnage, un très grand cuisinier, il faut citer son nom quand on parle aliments et histoire, c'est Auguste Escoffier. En quoi a-t-il révolutionné nos assiettes, nos plats ?
Alors d'abord dans la préparation, c'est-à-dire dans le travail en cuisine, dans le travail en équipe, il va commencer à mettre des toques, tout ça pour non pas que il est pris de toques, mais c'est parce qu'il adore la toque pour la préservation surtout de la cuisine. Et puis alors il va créer des recettes. On lui doit notamment la fameuse pêche melba, mais aussi c'est avec l'association d'un autre personnage qu'il faut jamais oublier. Escoffier, c'est avec César Ritz et ensemble ils vont créer des hôtels, des restaurants et ça va révolutionner en ce 19e siècle la façon, l'approche en tout cas de recevoir.
Et toutes ces histoires délicieuses, Frédéric Jarcel, vous les racontez dans les histoires les plus incroyables de l'histoire de France, c'est aux éditions Albin Michel et nous on a très envie que vous reveniez dans l'émission très vite.
Avec plaisir, merci de votre accueil.
Merci beaucoup Frédéric.
Vous écoutez RTL.